Bonsoir, Michel Murator. Je vous propose un alter regard sur 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. En 2049, c'est loin, mais pas tellement. Et à quoi ressemblera notre vie quotidienne en 2049 ? La société, le climat, l'eau, la santé, l'alimentation, si nous n'agissons pas aujourd'hui. Je vous propose donc ce voyage dans le futur avec nos modes de vie, de production, d'échange, de déplacement d'aujourd'hui. Dans quel état sera la planète en 2049 ? Pourtant, les discours, les politiques ne sont pas à la hauteur du danger pour la planète. La planète est en danger. Perte importante de biodiversité. On dit que la planète a résisté à tous les changements climatiques, mais les humains, non, ils ne résisteront peut-être pas. Après ce tableau un peu catastrophique, beaucoup catastrophique, mon invité proposera des points pour éviter cette catastrophe. Alors mon invité, Nathanaël Wallenhorst, qui est enseignant à la faculté d'Angers et qui est donc au téléphone. Nathanaël, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je vous avais reçu en 2023 pour votre livre précédent « Qui sauvera la planète ? Les technocrates, les autocrates ou les démocrates ?» Avec ce livre 2049, donc « Ce que le climat va faire à l'Europe », vous changez de regard sur la crise climatique. Il me semble que maintenant, vous cherchez plus à impliquer les citoyens. En 2023, il me semblait que vous étiez plus optimiste. Donc, vous pouvez vous présenter et puis peut-être réagir.
Oui, bon, eh bien, bonjour, je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous et puis de parler de ce travail 2049. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur. Je travaille au carrefour de disciplines au niveau des sciences du système Terre, donc la compréhension du fonctionnement de notre planète, de ses dynamiques propres, etc. Et puis aussi en sciences politiques pour essayer de comprendre la trajectoire de nos sociétés, puisque nos sociétés peuvent faire pour progressivement transformer leur trajectoire. Et puis aussi en sciences de l'éducation, voilà, autour de la façon dont on peut transmettre les savoirs qui portent sur le fonctionnement de notre planète pour petit à petit nous les approprier et les intérioriser. Peut-être c'est dû cette impression d'optimisme ou de plus de pessimisme, ou peut-être c'est dû à l'objet même qui est travaillé. En fait, 2049, ça porte vraiment sur ce que la poursuite de la trajectoire de notre planète va faire à nos sociétés. C'est-à-dire, si on reste sur la même trajectoire climatique, qu'est-ce que ça va générer dans nos vies, dans nos existences concrètement. Et donc, pour moi, c'est d'une certaine façon, c'est indépendant de tout optimisme ou pessimisme. C'est simplement, j'essaie de regarder la trajectoire. Si on n'arrive pas à modifier le fonctionnement de nos sociétés, qu'on reste sur la même trajectoire, où progressivement on attaque les différents éléments qui sont indispensables à la vie humaine en société, qu'est-ce que ça va nous faire? Et là, de fait, effectivement, ça génère une vraie fragilisation des conditions qui permettent la vie humaine en société. Et puis, le précédent livre, Qui sauvera la planète, c'était une analyse des récits et des récits, on va dire, écologiques, environnementaux, etc. Donc, de fait, c'est peut-être un peu moins impliquant existentiellement que cette analyse de la poursuite de la trajectoire climatique.
Alors, vous êtes membre de l'Anthropocène Working Group. Alors, pour nos auditeurs, déjà, revenir sur ce qu'on appelle l'Anthropocène. Bon, on commence à en parler pas mal, mais quand même. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Ce sont des chercheurs. Voilà, vous pouvez un peu préciser tout ça.
Oui. Alors, effectivement, donc, déjà, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? L'Anthropocène, c'est une proposition de nouvelle époque géologique. Alors, ça vient des sciences du système Terre et puis de la géologie, donc deux champs, on va dire, scientifiques, qui nous disent on est en train de sortir de ce qu'on appelle les fourchettes de variabilité climatique qui ont prévalu ces derniers milliers d'années. C'est-à-dire, depuis 11 700 ans, la Terre est entrée dans un moment interglaciaire. Ça, on a tous déjà vu ça à l'école. Il y avait des alternances entre des moments glaciaires très froids et puis des interglaciaires plus chauds. Et là, on est entré dans un interglaciaire qui était particulièrement stable et prévisible et qui a notamment permis que les différentes expérimentations agricoles elles prennent concrètement, et puis à partir de là, on a appris à maîtriser les écosystèmes, à dégager des excédents agricoles, et puis après, à partir de là, on a fait du business, on les a dealés d'une certaine façon, voilà, on les a négociés, et puis c'est cette capacité à produire des excédents agricoles, et puis ensuite à les transformer dans des services, dans autre chose, ce qui fait qu'on est là tranquillement en train d'échanger. Moi, pour ma part, c'est que j'ai mangé quelque chose avant notre échange, et puis si j'avais pas mangé depuis un bon petit moment, je vous aurais mis un petit texto en disant bah, écoutez, je suis désolé, mais là je vais pas pouvoir être disponible pour notre échange, il faut absolument que je trouve à manger quelque part, quoi. C'est pour dire la pensée même, elle procède d'une capacité de maîtrise des écosystèmes, et puis bien sûr toutes les fonctions de nos sociétés, un garagiste, un médecin, etc. Et voilà, donc ça c'est l'époque géologique antérieure, interglaciaire, qui est là depuis 11 700 ans et qui permet nos sociétés. Et puis, il y a des chercheurs depuis 26 ans exactement qui se disent, mais là, on est en train de sortir d'un cadre, le cadre qui a prévalu durant ces derniers milliers d'années, qui a permis l'émergence des sociétés et qui se sont mis à travailler là-dessus et qui lui ont donné un nom, Anthropocène, qui signifie la façon dont une nouvelle époque géologique est en train d'advenir, ce qui fragilise évidemment les conditions d'existence, ce qui fragilise la possibilité même pour nous de vivre en société. C'est ce qu'on appelle communément le réchauffement climatique, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi l'effondrement des écosystème de la biosphère, il y a aussi l'accélération de nos sociétés, voilà, il y a différents éléments comme ça qui participent de ce qu'on appelle l'anthropocène. Et vous voyez que combien il y a quelque chose dans ce que je vous dis qui n'est pas juste un truc qui concerne des chercheurs dans leur coin. On pourrait se dire, bon, nouvelle époque géologique, on s'en fout, voilà. Mais en fait, comme ça concerne directement le socle qui a permis l'émergence des sociétés, bah, ça nous concerne, ça nous touche, ça nous interpelle. Voilà. Et donc depuis une grosse quinzaine d'années, il y a un groupe de chercheurs qui a été missionné pour proposer une datation. Là, ça renvoie à la méthodologie propre des géologues, une datation de l'entrée dans cette nouvelle époque géologique. Et puis, je fais partie de ce groupe-là depuis 2 ans, qui travaille à la formalisation conceptuelle de l'Anthropocène.
Alors, pourquoi ce groupe, ce livre, maintenant, c'est vos travaux, vos inquiétudes? Vous parlez à un moment dans le livre, vous parlez des enfants, de nos enfants, de la planète qu'on va leur laisser. Donc il y a sans doute une inquiétude un peu plus personnelle, mais c'est lié donc ce besoin de décrire là-dessus 2049 à vos recherches, à vos études et parallèlement à vos inquiétudes.
Oui, alors c'est vrai que c'est le propre de pas mal de concepts qui sont proposés par des chercheurs, des concepts qui associent différentes choses, qui associent un constat, c'est-à-dire une analyse, on pourrait la qualifier de biogéophysique, c'est-à-dire une analyse à la fois biologique, à la fois géologique, à la fois physique, donc qui renvoie à des datas, à des données concernant le fonctionnement de la Terre, mais dans la façon même de concevoir ces concepts-là, de fait, il y a des chercheurs qui cherchent aussi à interpeller les sociétés et transmettre, on pourrait dire, le sentiment communément partagé par les communautés scientifiques, qui est l'inquiétude. Et une inquiétude, et en tout cas en disant ça, je pèse mes mots, pour d'innombrables chercheurs, c'est beaucoup plus qu'une inquiétude, c'est une terreur même, en fait, hein, de voir la façon dont on fragilise chacun des points d'épinglage de nos sociétés, d'une certaine façon. Ce qui fait qu'à un moment donné, la vie humaine en société est possible. Donc oui, bien sûr, moi, de fait, ça renvoie aussi à des inquiétudes. Et en fait, dans ce livre-là, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'avoir en un endroit, ce livre, un état des lieux des incidences à 360 degrés du changement climatique sur nos vies, sur nos sociétés. Et régulièrement, quand j'échange avec des collègues, avec des voisins, ou avec des collègues qui ne sont pas dans le champ des sciences du climat, je me dis, mais mince, c'est pas possible. C'est comme si les personnes n'avaient pas les bonnes représentations qui étaient associées au changement climatique. Par exemple, une représentation parfois qui est associée au changement climatique, c'est de se dire, mais finalement, c'est ni plus ni moins une translation des climats du Sud vers le nord. Et régulièrement, on peut entendre ça. On peut entendre, bon, ben, en 2100, à Lille, il y aura le climat qu'il y a en ce moment à Rome. Bon, ben, là, on se dit, bon, ben, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, il va faire moins gris à Lille, il va moins flotter, et puis on va pouvoir être un peu plus tranquille, on va se faire dorer la pilule, voilà. Et en fait, quand on a ce genre de représentation associée, ben, c'est qu'on n'a pas bien compris et intériorisé l'ensemble des données sur le changement climatique, qui n'est pas une translation des climats, mais plutôt quelque chose du genre d'une explosion sociétale. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à Rome, eh ben on peut, je connais pas les supermarchés à Rome, mais que ce soit un Super U, un Carrefour, un Intermarché, je sais pas quoi, on trouve des coquillettes, on trouve du pesto, on trouve etc. Enfin voilà, on peut manger sans problème à Rome, et quand il fait un peu chaud, on va dans la salle d'un McDo climatisé, enfin voilà. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, mais alors, en fait, si on reste sur la même trajectoire climatique, lorsque le climat de Rome sera celui de Lille, est-ce qu'on pourra toujours manger ou pas? Et là-dessus, il s'agit d'avoir les yeux en face des trous. À aucun endroit dans la littérature scientifique, on nous dit que oui, ben non, on nous dit l'inverse. C'est-à-dire, en fait, tous les éléments qui permettent la vie humaine en société seront profondément fragilisés, si ce n'est explosés. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Et pour pouvoir le comprendre, ben, il faut identifier les endroits dans la littérature scientifique où c'est mentionné. Et donc, c'était vraiment l'objet de ce livre, de faire une synthèse scientifique, mais une synthèse scientifique qui soit aussi... qu'on puisse comprendre, bien sûr, mais surtout qu'on puisse ressentir, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit aussi existentiel dans la lecture de ce bouquin-là, quoi.
Alors, pour chaque thématique que vous développez, on verra après, on reviendra sur chacune dans la deuxième partie, mais vous définissez ce que vous appelez le point de bascule. Le point de bascule, point, on ne pourra pas revenir dessus. Bon, on verra donc en détail, mais déjà, comment vous définissez ce point de bascule?
Alors ça, c'est un concept, point de bascule ou tipping point en anglais, qui vient là aussi des sciences, on va dire des sciences dures, sciences du système pair. Et peut-être on peut prendre juste une toute petite image ou métaphore pour pouvoir sentir un peu ce truc. Vous avez déjà fêté une fête d'anniversaire, et puis les auditeurs aussi. Bon, ben, quand on fête une fête d'anniversaire, on prend un ballon de baudruche, on souffle dedans et on le pendouille au plafond. Bon, quand je souffle dans le ballon de baudruche, le volume, il augmente de façon proportionnelle, de façon linéaire, avec l'air que j'injecte dans le ballon. Je souffle un peu, il gonfle un peu. Je souffle beaucoup, il gonfle beaucoup. En apparence, c'est comme ça que fonctionne le système climatique. C'est-à-dire, je mets un petit peu de CO2, de méthane, ça chauffe un peu, j'en mets beaucoup, ça chauffe beaucoup. Et maintenant, je reprends notre ballon de baudruche, jusqu'à ce qu'un millilitre d'air en plus, et le ballon, il explose, il pète. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Voilà, on aura beau le rescotcher, le recoller, on n'arrivera plus jamais à le gonfler. Il franchit un point de bascule, voilà. Un moment brusque, irréversible, sans retour en arrière possible. Et bien, c'est aussi... C'est une image, évidemment, de cette façon que fonctionne le système climatique. Un peu plus de CO2, un peu plus de méthane. Et là, il se passe quelque chose qui est non linéaire, non proportionnel avec la cause qu'il a générée. Avec une succession, justement, de bascules, etc. Et alors, évidemment, les temporalités d'une fête d'anniversaire, c'est une soirée, les temporalités du système Terre, elles se comptent parfois en années, plus souvent en dizaines, centaines, voire milliers d'années, par exemple, concernant la calotte glaciaire antarctique, enfin voilà. Donc ça rapporté à des temporalités qui sont celles du système Terre, mais c'est pour pouvoir comprendre ce que peut signifier à un moment donné un passage brusque, irréversible, sans retour en arrière possible. Et ça, c'est une dynamique, une logique, cette non-linéarité, non-proportionnalité, qui nous est un peu contre-intuitive, parce qu'en général, on a appris à comprendre le monde à partir d'une dynamique qui est linéaire. Je fais quelque chose, c'est cause-effet. Je fais quelque chose, ça a un effet. Voilà. Mais les auditeurs qui ont une formation ou d'ingénieur ou une formation scientifique qui ont travaillé sur les systèmes complexes, ils savent bien que les systèmes complexes sont caractérisés précisément par la non-linéarité. Le système complexe auquel chacun d'entre nous on est habitué et duquel on est familier, c'est notre corps, le corps humain. Une toute petite bactérie de rien du tout, et ça peut générer la mort. Ça peut générer une septicémie. Il peut y avoir un effet comme non-linéaire, non proportionnel avec la cause.
Et vous dites aussi qu'il y a une imprévisibilité, donc on ne peut pas se protéger et prévoir.
Alors, effectivement, dans les systèmes complexes, il y a de l'incertitude. Ça, c'est caractéristique des systèmes complexes. Un système qui est peut-être très peu complexe, on va dire, mais imaginons, on joue au flipper, la bille est en haut, elle tombe, on ne sait pas exactement si elle va tomber à droite, à gauche, voilà, elle peut tomber tantôt à droite, tantôt à gauche, enfin, voilà, il y a une espèce d'incertitude. On pourrait se dire, par exemple, là, si on allait se prendre un chocolat chaud, on mettrait du lait dans notre casserole, on allumerait sous la casserole et puis on continuerait notre conversation. Bon, je ne sais pas vraiment quand le lait va sortir de la casserole. Il y a de l'incertitude. Mais l'incertitude, ce n'est pas l'ignorance. Je sais qu'à un moment donné, le lait va sortir de la casserole. Et donc, il s'agit bien de différencier incertitude d'ignorance. Si je précise ça, évidemment, on peut se dire, bah oui, bien sûr, ça va sans dire. Mais en même temps, il y a telles offensives aussi médiatiques, climato-sceptiques, qui distillent du doute sur les savoirs climatiques, du doute, voilà, qui génère de l'ignorance, voilà, qu'il s'agit aussi de bien différencier comme ça des éléments qui peuvent paraître absolument évidents. Voilà. Et ensuite, alors après, quelle est cette incertitude propre au système climatique, au système Terre, etc. Eh bien, on ne peut pas dire exactement ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir un dixième de réchauffement en plus, ou deux dixièmes, ou un degré en plus, etc. Des choses sont modélisables, mais les modélisations génèrent, de fait, elles ont de la complexité et il y a de l'incertitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fragilise nos sociétés, ça fragilise le socle sur lequel nos sociétés se sont encastrées. Et ça, c'est une certitude. À cet endroit-là, il n'y a pas de doute possible. Voilà. Et donc ça complexifie la vie humaine en société, voire même ça l'entrave dans certaines régions du globe. Et ça, il faut en avoir il faut pas simplement en avoir conscience, il faut comprendre le fonctionnement même pour pouvoir agir à la hauteur des enjeux et pas simplement agir de façon cosmétique en ayant l'impression de faire des choses pour la planète, etc., mais qui aurait aucune efficience d'un point de vue physique.
Alors, on va se retrouver après une pause musicale. Et on reprendra effectivement thème par thème que vous avez commencé à élaborer en voyant comment vous voyez le point de bascule, disons. Pas dans le temps, puisqu'on a dit que c'était pas possible dans le temps, mais quand même il y a des éléments qui, sur chacun des thèmes que vous développez, permettent de voir qu'on va vers ce point de bascule. Donc après une pause musicale, HK et les Saltimbanques, Allumeur d'étoiles.
Avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé, pour unique salaire, de la traînée de poudre, d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée lever du jour quand le monde est chaos. Black, on sort les échelles et les chalumeaux. Franco, on grimpe là-haut. Perché sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore et encore. Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froids de lumière. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore et encore.
Bonsoir, Michel Murata, nous nous retrouvons pour un alter regard et avec Nathanaël Wannenhorst, nous parlons de 2049. Alors, vous avez défini ce que vous abordez dans le livre, ce que vous appelez pour chaque thématique, le point de bascule. Donc, ce que je propose, c'est de reprendre thématique par thématique et de voir comment on va, si on va vers ce point de bascule, enfin, comment vous analysez ça. Alors, vous parlez de la chaleur. Bon, on est là, effectivement, on nous dit que la chaleur va augmenter de tant de degrés, tout ça. Mais vous analysez comment pour déterminer, pour prévoir, pour essayer de prévoir ce point de bascule?
Alors, donc effectivement, donc on a affaire en ce moment à un réchauffement du climat qu'on mesure avec un fameux chiffre, hein, dont on a déjà tous entendu parler, qui est le plus quelque chose. En ce moment, on est à peu près à plus 1,2, et puis on sait qu'il y a une limite à ne pas franchir à plus 1,5, et puis il y a une limite supplémentaire juste derrière à plus 2. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce chiffre déjà? On mesure la température à différents endroits du globe et au-dessus des océans, dans des endroits où il y a des stations météorologiques qui captent des relevés comme ça de température et de météo, et donc les capteurs, ils sont positionnés à 1,5 mètre du sol à l'ombre, et on fait une moyenne de tous ces relevés-là à partir du moment où on a commencé à en positionner, c'est-à-dire on fait la moyenne entre 1850 et 1900, et là on arrive à un chiffre, et puis ensuite on fait la moyenne ces 30 dernières années. donc on parle à 2026, puis on va jusqu'à 1996, et on mesure, on prend toutes ces températures, voilà, on fait une moyenne, et puis après on regarde l'écart entre ce qu'on appelle les moyennes pré-industrielles, donc la moyenne 1850-1900, et la moyenne de ces 30 dernières années. Et là on arrive à un chiffre qui est à peu près 1,2, voilà. Et puis comme il y a un phénomène d'intensification du réchauffement climatique, parfois on mesure avec, on lisse non pas sur 30 ans mais sur 10 ans, et parfois même sur un an. Par exemple l'année dernière, on était à plus 1,6 en lissant sur un an. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on mesure l'augmentation moyenne de la température. Par contre, ça masque un élément qui est particulièrement important, c'est ce qu'on appelle les écart-types, c'est-à-dire les écarts avec la moyenne. Et en ce moment, ce qui est en train de se passer, et ça, la moyenne le reflète que trop peu, c'est une augmentation des écarts, avec des vagues de chaleur qui peuvent être particulièrement importantes. Et en fait, ce qui se passe pendant une vague de chaleur, il peut y avoir des effets délétères sur la santé humaine, il peut y avoir des effets délétères sur nos cultures, sur nos productions agricoles. Et par exemple, il y a des chercheurs pilotés par Margot Bador qui ont pris la vague caniculaire de référence, la vague caniculaire la plus conséquente qu'on ait connue au niveau de l'Europe, l'Europe de l'Ouest, voilà, qui était celle de 2003. En 2003, à Strasbourg, Metz et Nancy, dans l'est de la France, il y avait des pics caniculaires de 42 degrés. Et puis, ces chercheurs, ils ont regardé, alors avec 2 degrés de réchauffement global moyen en plus, c'est-à-dire en disant, mais en fait, en 2100, ça génère quoi si jamais on a la même structure de vague de chaleur qui réapparaît? Et ça génère en fait 13 degrés de plus lors du pic caniculaire. Ça veut dire des pics caniculaires de 55 degrés. Alors, 55 degrés, donc le record du monde, hein, c'est 54,4 degrés hein, dans un désert aux États-Unis. Donc ça veut dire des températures qui ont cours vraiment dans le désert, des températures qui désertifient des pans entiers du territoire national qui sont aujourd'hui dédiés à la production agricole. Alors, quand on prend les choses comme ça, avec ce type d'études prospectives, on se dit, ah oui, d'accord, effectivement, on commence à entrevoir, à ressentir d'une certaine façon ce que ça peut signifier que de dire plus 3 degrés d'ici 2100. Puisque plus 3 degrés, on se dit, bah, 3 degrés de plus, c'est pas bien grand-chose. Mais non, en fait, ça, c'est la moyenne, et ça masque les pics caniculaires qui sont dévastateur, voilà, pour nos cultures, mais aussi pour la santé humaine, voilà, parce qu'il y a des températures auxquelles on ne survit pas. Alors, peut-être juste, on peut se dire un tout petit point méthodologique, parce que on pourrait se dire, mais alors, comment on peut faire confiance à ces études prospectives? Peut-être vos auditeurs se disent, mais il est un peu bizarre ce type, il nous parle de 2100 comme s'il en revenait, qu'est-ce qu'il en sait? Et là, il y a un élément important, c'est que ça fait plus de 50 ans que les chercheurs réalisent des études prospectives. Depuis 1972, le rapport du Club de Rome, il y a des études prospectives comme ça. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est, mais alors les chercheurs, ils se sont trompés, ils ne se sont pas trompés? Ben oui, tout ce qui advient est un peu pire que ce qui était prévu. Parce qu'il y a des phénomènes d'emballement qui n'étaient pas explicités et connus. Et plus on avance, plus on découvre un phénomène d'emballement. Voilà. Donc en tout cas, à titre personnel, moi j'ai une confiance élevée dans les études prospectives au nom de l'analyse rétrospective qu'on peut en faire.
Alors l'accord de Paris, c'était 1,5 degré. Là, on n'y tient pas.
Alors 1,5 degré, oui, de fait, c'était de dire on doit, d'ici 2050, ne pas dépasser 1,5 degré et puis atteindre une neutralité carbone pour éviter une poursuite de l'emballement du climat. Aujourd'hui, la trajectoire sur laquelle on est sur une trajectoire qui est aux alentours des plus 3 degrés d'ici 2100, plus 3 degrés, plus 3, 2 degrés 5, parfois on dit 2,7, enfin voilà, en tout cas, il y a différentes analyses possibles, mais en tout cas sur une trajectoire qui est nettement plus conséquente que 1,5. Et puis, on entend dire aussi de plus en plus que le 1,5, on l'aura atteint d'ici 2030 ou quelque chose comme ça, et qu'on pourrait atteindre quelque chose de l'ordre de plus de 2 degrés d'ici 2050. Donc la trajectoire sur laquelle on est en ce moment, ça n'est pas la trajectoire que les États ont choisi de positionner comme une trajectoire de mise en sécurité des sociétés. Parce que quand les différents États, lors de la COP21 à Paris, décident de dire mais en fait ce 1,5 est important et il ne faut pas qu'on excède, c'est pas pour embêter les gens ou je ne sais pas quoi, c'est parce que c'est une trajectoire de mise en sécurité des sociétés. Et aujourd'hui, on ne le respecte pas et de fait, c'est problématique.
Alors, cette chaleur, elle génère la pénurie. Vous avez commencé à aborder hein, tout ce qui en découle. Donc, vous parlez de pénurie alimentaire et au niveau énergétique aussi. Il y aura une pénurie liée quand même à ce réchauffement climatique.
Alors, oui, tout à fait. De fait, ça entraîne quelque chose de l'ordre de la pénurie. Là où, au niveau de l'Europe occidentale, Europe de l'Ouest, on est plutôt habitué à un régime qui est celui de l'abondance. L'abondance qui est celle de l'époque caractéristique, en fait, de l'époque géologique antérieure, c'est-à-dire ce qu'on disait en début d'entretien, est un endroit où on peut particulièrement identifier, percevoir, sentir la pénurie, c'est dans le rapport au cycle de l'eau. On a 0,007% de l'eau qui est disponible pour l'humanité. Le reste de l'eau, elle est en haut des calottes glaciaires arctiques, antarctiques, ou dans les sommets montagneux du Tibet, ou dans les fonds des mers, des océans, etc. Bref, c'est de l'eau qui n'est pas accessible, disponible pour l'humanité. Donc 0,007%. Et on était 1,6 milliard début 1900. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc en fait, il faut qu'on se partage cette eau. Et on a 4 milliards de personnes en ce moment sur Terre qui vivent un mois de pénurie grave d'eau par an. Et voilà. Donc du coup, il y a qui éprouvent vraiment la pénurie d'eau. Et de plus en plus, on identifie dans un endroit où il y a une vraie abondance, en tout cas dans le rapport à l'eau, comme la France métropolitaine actuelle, on entend de temps en temps les étés des endroits où il n'y a plus d'eau dans les nappes. On ravitaille un village avec des camions-citernes, etc. Pour l'instant, ça reste entre guillemets anecdotique d'une certaine façon, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui commence à pointer le bout de son nez d'une certaine façon. Et puis commence à apparaître dans un endroit à nouveau vraiment caractérisé par l'abondance à cet endroit-là qui est la France métropolitaine, des conflits d'usage. C'est-à-dire en disant « Ah, mais là, l'eau, si on dédie l'eau pour l'arrosage des golfs, alors il n'y en aura plus assez pour se brosser les dents, enfin je caricature un petit peu, ou alors l'eau, est-ce qu'il faut que ça aille pour l'agriculture industrielle qui va nourrir tant de personnes, voilà. »
Alors, donc du coup, effectivement, des pénuries essentiellement l'eau, parce que l'eau, ça sert à l'agriculture, ça sert à tout, quoi. C'est vraiment vital. Et vous découle aussi la chaleur, vous dites, le dépeuplement. Donc là aussi, l'une des conséquences, ce serait le dépeuplement.
Oui, alors ça, c'est un autre élément d'existence qui est touché, qui est impacté. On entend parler régulièrement de la façon dont les écosystèmes sont impactés par le réchauffement climatique, mais aussi ce qu'on appelle par les forçages anthropiques, c'est-à-dire les forçages des activités humaines directement sur les écosystèmes. C'est-à-dire, typiquement, ça va être la façon dont on va anthropiser des espaces. C'est-à-dire, par exemple, une ville, quand on construit une ville, on détruit des écosystèmes pour pouvoir construire un habitat pour les humains. Ça, c'est un premier élément. Un autre élément, ça va être la préemption dans des écosystèmes. Par exemple, la pêche ou la surpêche, ça vient altérer des écosystèmes. puis le troisième facteur qui génère à un moment donné une pression comme ça sur les écosystèmes, c'est le réchauffement en tant que tel qui génère une difficulté, voire une impossibilité pour certaines espèces à s'adapter dans un environnement qui se réchauffe. Par exemple, il y a des espèces d'arbres, le hêtre commun, qui est l'espèce de feuillu, une des espèces de feuillus les plus répandues en Europe, qui est une espèce qui est d'ores et déjà condamnée par l'ampleur du réchauffement climatique. Donc il y a différents éléments comme ça qui génèrent une planète de moins en moins peuplée, ou alors peuplée avec nos propres espèces, celles qu'on a façonnées pour nous, hein, comme nos poulets, nos bœufs, etc., qu'on appelle aussi, c'est des chercheurs qui proposent cette appellation-là, des espèces du désastre, c'est-à-dire des espèces qui génèrent une destruction systématique des écosystèmes et de la diversité fonctionnelle du vivant au profit de quelques espèces comme ça qui deviennent absolument massives mais qui viennent détruire les autres. Alors toute la question, c'est de se dire, mais est-ce que nous, on va quand même réussir à vivre dans une planète complètement façonnée pour nous, c'est-à-dire où en fait il y aura moins d'espèces, moins de populations animales, végétales, etc., mais uniquement nos champs de blé, de maïs et nos bœufs et nos poules, quoi. Et donc, il y a une réflexion, il y a un débat là-dessus, et il y a des chercheurs qui tirent la sonnette d'alarme pour dire, la coexistence, elle précède l'existence, et la destruction du vivant systématique dans laquelle on est là en ce moment, elle est particulièrement problématique pour la vie humaine aussi.
Alors, vous dites aussi la contamination, ça a un impact sur la contamination, sur la santé, mais pas que la santé humaine, aussi la santé des animaux et de l'environnement. C'est un peu ce que vous avez commencé à développer. Donc, cette chaleur a un impact beaucoup plus vaste que simplement la santé humaine, ne pas supporter les températures.
Oui, tout à fait. Ça, c'est peut-être l'élément qui m'a le plus marqué, moi, en travaillant sur 2049, c'est-à-dire la poursuite de la trajectoire et de voir ce que ça peut faire à nos sociétés, c'est de mesurer combien le réchauffement climatique est comme il y a un impact sanitaire considérable du réchauffement climatique. Depuis la révolution industrielle, on a introduit des nouvelles entités dans la biosphère qui n'existaient pas avant. Du plastique, des PFAS, des métaux lourds, etc. Et en fait, ces nouvelles entités, qu'on appelle aussi les pollutions, elles ont infiltré les sols, l'air, l'eau et nos corps. Et on a affaire maintenant à une contamination qui devient de plus en plus généralisée et problématique. Par exemple, il y a un papier scientifique où des chercheurs ont étudié le placenta de femmes après un accouchement et où ils ont vu que la paroi externe comme la paroi interne était recouverte de microplastiques. Et ça a fait dire à ces chercheurs, mais on a affaire à une généralisation, massification de l'intoxication en microplastiques, y compris dans la vie, au niveau de la vie prénatale. Et donc le réchauffement climatique qui génère des zoonoses, ça on l'a vu avec le Covid, ils génèrent un élargissement du périmètre de maladies, ils génèrent des mutations chez des virus, des maladies vectorielles qui se développent, c'est des maladies qui sont transmises par ces petites bêtes, entre guillemets, une augmentation des cancers, bien sûr, une augmentation des pathologies mentales, des suicides, etc. Où comporte notre regard à partir du réchauffement climatique, ça génère une fragilisation de la santé.
Alors, vous citez aussi la faim, la guerre et la migration. Mais la migration, c'est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que si on parle de la chaleur, la pénurie, tout ça, ça entraîne une migration.
Oui, tout à fait, une migration. Alors, on le voit bien, on le ressent là, en faisant ce tableau là, à 360 degrés, des conséquences de la trajectoire climatique sur nos vies. Ça vient fragiliser la capacité à produire des excédents agricoles, Et puis derrière, ça, c'est des endroits qui sont plus habitables et la nécessité de migrer. Alors la nécessité de migrer, là, il faut préciser, la migration, elle n'est pas systématique. Elle est pas, il y a aussi des possibilités d'adaptation, mais dans une certaine mesure, et une certaine mesure seulement, d'adaptation de nos sociétés pour faire front, pour faire face un environnement changeant, un environnement qui se réchauffe, etc. Mais on le voit bien, enfin en tout cas c'est dans une certaine mesure seulement. Et puis bah, sinon, bah, il y a la nécessité à un moment donné à se déplacer pour trouver un autre endroit où pouvoir voilà, se poser, établir sa vie, etc. Alors, voilà, les différents éléments, là, pour moi, ça me semblait important qu'on puisse les identifier, les comprendre, qu'on puisse en maîtriser vraiment les fondations scientifiques. Bien sûr, ensuite, pour se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir à la hauteur des enjeux ?
Et bien, ce sera la troisième partie de notre entretien, après une pause musicale. Alors là, c'est Wind of Change de Scorpion.
And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We'll be right back.
Alors, on essaye maintenant d'être un petit peu plus optimiste. Donc, on se retrouve avec Nathanaël pour parler de 2049. Mais on va essayer d'être un petit peu plus optimiste. Mais vous citez aussi le chaos. Et vous dites que le chaos, ce sont des indicateurs économiques qui sont faussés et qui ne prennent pas en compte le coût social du carbone. Et donc déjà, si on travaillait là-dessus, on peut-être que on affronterait plus facilement, non, ce qui nous attend.
Alors, effectivement, ça c'est dans ce dernier chapitre que j'ai voulu explorer, c'est la façon dont nos sociétés produisent des indicateurs, comme des indicateurs de pilotage, pour pouvoir accompagner la bifurcation de nos sociétés, le changement de trajectoire, les transformations de nos sociétés. Et pour l'instant, les indicateurs économiques dont on dispose, ils sont produits en étant très peu ancrés dans la matérialité physique, biogéophysique de l'économie. C'est-à-dire il y a comme un impensé systématique en économie, c'est les flux de matière et d'énergie qui permettent ensuite toutes les circulations et qui sont étudiées dans le cadre de modèles économiques. Voilà. Et il s'agit de pouvoir refaçonner des modèles économiques qui prennent acte de la dynamique non linéaire, non proportionnelle, qui est celle du système Terre. Et là, pour l'instant, de fait, nos modèles économiques, ils sont à la traîne, en fait. Voilà. Et ce qui fait que c'est important, c'est que sinon, on se raconte des histoires, mais des histoires qui ne sont pas efficientes. Et le risque, c'est de générer une adaptation de nos sociétés, enfin de viser, par exemple, on entend beaucoup ça dans le débat public, en disant, on a fait à peu près ce qu'on a pu pour atténuer le réchauffement climatique. Maintenant, on va s'adapter à une France dans un monde qui serait réchauffé de plus 3 degrés. Mais sans identifier combien l'adaptation sera complexe, si ce n'est impossible. Et à cet endroit-là, il faut avoir des modélisations économiques qui soient ajustées, efficientes, voilà ce qu'on n'a pas pour l'instant, pour prendre la mesure de l'urgence de réorienter la trajectoire des sociétés, mais avec efficience.
Les chercheurs alertent, mais effectivement, on a l'impression qu'on s'intéresse plus à s'adapter que à réguler, à modifier nos modes de vie, tout ça, pour éviter, pour limiter.
Oui, parce que de fait, dès qu'on est l'atténuation du réchauffement climatique, ça suppose des arbitrages, ça suppose des décisions, et des décisions qui sont vraiment complexes, en fait. Ça suppose de se poser des questions profondes qui sont, mais fondamentalement, on arrête qui et quand est-ce qu'on va arrêter des activités économiques, des activités de consommation qui sont délétères. L'image toute simple, là, c'est de se dire, mais en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Il s'agirait peut-être d'arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis. Et toute activité économique n'est pas forcément bonne. Si entre autres activités économiques, il y a d'allumer des incendies parce que ça donne du boulot aux pompiers, peut-être qu'il faut arrêter d'allumer des incendies et réorienter certains boulots dans notre société, quoi. Et ça suppose des choix qui sont proprement politiques, la politique pas du tout entendue dans le sens partisan du terme, dans le sens à un moment donné sociétal, civilisationnel, citoyen, et à cet endroit-là, il faut pouvoir arbitrer, il faut pouvoir décider. Et pour l'instant, on manque de courage à cet endroit-là.
Alors, vous avez on ne va pas reprendre chaque point par point, chaque thématique, mais quelques exemples de ce qu'il faudrait faire, plutôt ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant, ce qu'il faut faire pour réduire, imiter, plutôt que s'adapter à ce drame que serait le changement climatique.
Alors, le livre, c'est un livre de diagnostic. C'est-à-dire, c'est un livre pour pouvoir avoir les yeux en face des trous et se dire, mais quel est le problème? Et dans le livre, volontairement, j'ai souhaité ne pas encombrer, entre guillemets, le lecteur de mes propres orientations, de mes propres idées, on va dire, de solutions, ou de etc., pour d'abord partager le constat physique, pour qu'à partir de là, un débat soit possible. et qui est du débat. Et certains vont dire, bah oui, mais moi, en fait, je continue d'être profondément libéral. Pour moi, c'est particulièrement important, la liberté, etc. Donc, je refuse qu'on régule davantage le système économique. Voilà. Je vais dire, bah, très bien. Bon, moi, c'est pas ma sensibilité personnelle, mais à la limite, peu importe. Je vais dire, bah, très bien, à partir du moment où le débat citoyen et politique, il procède bien d'une analyse du réel et que la réflexion politique, elle ne soit pas émancipée du réel. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça le problème. Ce à quoi on a affaire à l'Assemblée, c'est de débats qui ne procèdent pas d'une analyse biogéophysique du réel. Et ça, c'est vraiment, c'est absolument dramatique. Voilà. Bon. Une fois que j'ai dit ça, en ce moment, je suis en train de faire un travail justement autour des solutions, entre guillemets, autour de 2049. Donc le boulot, il est en cours, il n'est pas fait, voilà, de mon côté. Mais on peut identifier comme ça quelques éléments. Ce qui est absolument évident, c'est qu'il faut qu'on diminue l'empreinte que nous exerçons sur la Terre, l'empreinte que nous exerçons sur les écosystèmes. Là, il faut réduire, il faut mettre du moins. Et donc, il faut choisir, secteur par secteur, comment on va faire du moins. Ben, ça, c'est pas marrant, à cet endroit-là. Avoir du moins dans sa vie, c'est pas marrant. Donc, il faut se débrouiller de telle sorte que ce soit juste. Et donc, c'est toute la justice sous-jacente au fonctionnement de nos sociétés qui est à repenser, qui est à revoir. Aujourd'hui, on vit dans un principe selon un principe de justice qui est premier arrivé, premier servi. Et on part du principe que, il y a un paquet de ressources, et puis en fait, le premier arrivé, il peut s'en mettre plein les poches, et puis basta. Et puis celui qui arrive après, il n'avait qu'à courir plus vite. Ça, j'ai envie de dire, c'est un principe de justice qui marche, c'est juste, à partir du moment où il y a une illimitation des ressources. Et si les ressources sont limitées, et si, en plus d'être limitées, il y a une dimension systémique qui fait qu'à chaque fois qu'on tape dans les ressources, ça vient empêcher la vie d'autrui, ben là, il y a un principe de justice qui ne va pas, qui est à revoir. Et donc, il faut de la régulation. Et donc là, c'est l'endroit où il faut vraiment profondément une régulation forte au niveau démocratique. Quoi. Donc ça, moi, c'est un premier élément qui me semble vraiment important. C'est-à-dire que ce ne soit pas le niveau de revenus des uns et des autres qui autorise à consommer autant qu'on veut. On a le droit de consommer autant que ce qu'on a comme sous sur son compte en banque. Donc si on est milliardaire, on a le droit de consommer 1 milliard. Si on a 1 euro, on a le droit de consommer 1. Bah, à cet endroit-là, il y a un principe qui est fondamentalement à interroger pour qu'un humain consomme une unité de consommation. Et au nom de quel principe de justice, quelqu'un qui aurait trois fois plus aurait le droit de consommer trois fois plus si ça entrave la vie d'autrui. Voilà, c'est ce genre d'éléments vraiment profonds, fondamentaux qu'il faut aller chercher voilà, si on veut arriver à agir à la hauteur des enjeux. Puis après, il y a des éléments qui sont, on va dire, plus, je ne sais pas si c'est cosmétique, mais enfin, pas cosmétique n'est pas le bon terme, mais peut-être moins profond en termes de refondation du socle vraiment social, sociétal, civilisationnel. Dès lors qu'on électrifie, globalement, on fait plutôt du bien. C'est-à-dire à partir du moment où on arrête de cramer du gaz, du pétrole, etc. Alors l'électrification, elle peut supposer de cramer hein, dans certains écosystèmes. Voilà, ça peut être des centrales à charbon hein, qui produisent de l'électricité. Donc là, ce que je dis ne tient pas. Mais électrifier peut être... on a un petit peu plus de chance, on va dire, quand on électrifie, de faire du bien que quand on n'électrifie pas. Mais après, il faut regarder les choses de façon, là aussi, vraiment minutieuse, dans le détail, etc. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le parc automobile, sans du tout repenser la conception de notre bagnole, leur taille, la propriété même des voitures, le rapport à la mobilité, etc. Bon, là, ce qu'on fait... C'est pas bon, c'est vraiment insuffisant. Il faut aller bien, bien plus profondément.
On va vous accuser d'être décroissant.
Ah ben, bien sûr. Mais, je veux dire, c'est juste une évidence biogéophysique, la décroissance. Moi, je suis pas socialisé dans des partis politiques. Ma socialisation, c'est une socialisation de chercheurs. C'est-à-dire, socialisation, on pourrait presque dire autistique, dans des articles scientifiques. La décroissance est une évidence biogéophysique. C'est-à-dire que la poursuite de la croissance est incompatible avec la mise en sécurité des sociétés humaines. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est une évidence. Et la décroissance doit être absolument considérable pour pouvoir relâcher la pression anthropique sur les principaux éléments du système Terre qui courent le risque de franchir des points de bascule. Et donc là, on a les récifs coralliens, la perte de glace arctique, la calotte glaciaire du Groenland, enfin l'ensemble des éléments comme ça du système Terre, et je pourrais en lister comme ça 26, hein, qui sont, qui, si on continue de les fragiliser, on détruit le socle qui permet la vie humaine en société.
Et vous dites que le plus grand drame, ce serait la fin de l'humanité. Donc peut-être qu'il faut commencer à prendre conscience que si on continue, on va vers la fin de l'humanité. Ça toucherait alors, peut-être un peu plus de monde.
Alors, la fin de l'humanité, c'est-à-dire, à chaque fois dans l'échange, là, du coup, j'ai bien parlé de la vie humaine en société. C'est-à-dire, un humain à poil, c'est-à-dire déconnecté de toute composante sociale, culturelle, économique, etc., détaché de toute société, il arrivera à survivre. Enfin, l'espèce humaine n'est pas en danger, c'est pas ça tellement le problème en fait. Hein. Un humain en mode sur les hélices, il n'y a absolument aucun problème. Le problème, c'est l'interdépendance des différents espaces sociaux, c'est-à-dire toutes nos sociétés qui sont comme ça interdépendantes et qui dépendent toutes d'un système stable, prévisible, entre le climat et les écosystèmes de la biosphère. Et comme on est en train de désinguer cet équilibre et cette prévisibilité bioclimatique, d'articulation entre la biosphère et le climat, alors ça vient fragiliser nos sociétés. Et donc c'est à cet endroit-là qu'est vraiment le problème. C'est au niveau sociétal plus qu'au niveau de l'espèce humaine.
Alors, on est à la fin. Donc, on rappelle le titre du livre. 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, aux éditions du Seuil. Et on rappelle aussi le livre précédent qui était Qui sauvera la planète ? Parce qu'on peut lire les deux quand même, je conseille les deux, les technocrates, les autocrates ou les démocrates, parce qu'on voit bien qu'il manque cette responsabilité politique, au bon sens du terme, pour effectivement sauver la planète, même d'ici avant 2049.
Oui, et tout à fait. Et puis peut-être dire un mot sur ce 2049, hein, bien sûr, qui intègre une composante temporelle, voilà, mais qui n'est pas que une dimension temporelle, c'est-à-dire 2049 n'est pas que ce qui va se passer dans une vingtaine d'années, mais c'est l'image du monde à venir sous l'effet des différents forçages anthropiques, c'est-à-dire l'image du monde à venir si on reste sur la même trajectoire climatique.
Eh bien, Nathanaël, merci. Et je vous donne rendez-vous pour le livre des solutions.
Bon, un grand merci.
À bientôt.
Au revoir.